RFI, les 6h à Beyrouth, 5h à Paris. Bienvenue.
Mailleul de Charon.
Et à la une de ce journal, les États-Unis condamnent à leur tour les tirs israéliens sur les casques bleus au Liban. Deux ont été blessés hier. Israël affirme de son côté avoir tiré en direction d'une menace. Au Liban, toujours, l'OMS alerte sur la situation des personnels de santé. Plus d'une centaine de médecins et de secouristes sont morts depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah il y a un an. Economy Fitch lance un avertissement à la France dans un contexte budgétaire tendu. L'agence maintient la note du pays à A-, mais la place sous perspective négative. Nous verrons ce que cela signifie. Deux avocats portés disparus au Burkina Faso. Ils ont été enlevés dans l'ouest du pays. Le kidnapping aurait été commis par des terroristes. Et puis les réactions au Japon au lendemain de l'attribution du Nobel de la paix à Nihon Hidankyo pour son combat contre l'arme atomique. L'association japonaise rassemble les survivants des bombardements sur Nagasaki et Hiroshima en 45. Après la France, l'Espagne ou encore l'Irlande, le président américain Joe Biden demande à son tour à Israël de ne plus tirer sur les forces de l'ONU au Liban. Hier, deux casques bleus sri-lankais ont été blessés dans le sud du pays. La veille déjà, deux soldats indonésiens avaient été touchés. Israël affirme avoir tiré en direction d'une menace près d'une position de la FINUL et accuse le Hezbollah de mettre les soldats en danger. Depuis le début de ces affrontements, les services de santé payés également un lourd tribut. Plus d'une centaine de médecins et de secouristes ont été tués au Liban, selon l'OMS, la plupart ces dernières semaines. Jérémy Lanche.
L'OMS a fait le calcul. Depuis le 17 septembre, date des explosions des beepers des membres du Hezbollah, 18 attaques de l'armée israélienne ont visé des bâtiments ou du personnel de santé. Bilan, 72 morts et une quarantaine de blessés. La conséquence, elle est la même qu'à Gaza. Des hôpitaux sous tension et qui ne peuvent plus fonctionner normalement. Christian Lindmayer, porte-parole de l'OMS.
Au sud Liban, 96 centres de santé ont été obligés de fermer leurs portes à cause des bombardements. 5 hôpitaux ont été touchés et sont hors service, et 4 ont dû procéder à une évacuation partielle de leurs patients, y compris ceux qui sont sous dialyse ou qui suivent une chimiothérapie.
Quant à Gaza, rien ne change, ou presque. Les convois de l'OMS sont systématiquement refusés par les autorités israéliennes, après avoir patienté pendant des heures au checkpoint, et ce, alors que les hôpitaux que les humanitaires tentent de joindre sont concernés par des ordres d'évacuation. La campagne de vaccination contre la polio, qui doit redémarrer ce lundi à Gaza, s'annonce donc très compliquée de l'aveu même de l'OMS, dans un contexte de reprise des combats au nord de Gaza. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Gaza, où la défense civile annonce la mort de 30 personnes dans une série de frappes israéliennes hier. 12 morts dans la ville de Jabalia, située dans le nord de l'enclave. Volodymyr Zelensky veut obtenir la fin de la guerre dans son pays en 2025. Le président ukrainien a terminé hier à Berlin sa tournée européenne pour présenter son plan de victoire face à la Russie et réclamer davantage d'armes. Volodymyr Zelensky a obtenu la promesse que l'aide allemande de ne faiblirait pas au moment où son pays est en difficulté sur le front face aux troupes russes. Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz prévoyait de réduire de moitié la somme allouée aux aides militaires bilatérales destinées à l'Ukraine. En France, le verdict est tombé hier soir. L'agence de notation américaine Fitch a maintenu la note de la France à A-, soit 17 sur 20, mais sous perspective négative, c'est-à-dire que la note du pays pourrait baisser dans quelques mois. Une annonce faite alors que le déficit de la France s'est envolé cette année et que le nouveau gouvernement vient de présenter son projet de budget 2025. Selon Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESSEG, école de management, l'agence Fitch met en quelque sorte le pays sous surveillance avant le vote du budget au Parlement.
Ce qui pourrait provoquer une dégradation de la note elle-même la prochaine fois, ce serait la capacité effectivement du gouvernement de faire voter des mesures suffisantes pour infléchir la trajectoire du déficit et de la dette publique. Fitch nous dit d'ailleurs qu'il ne croit pas à la possibilité de faire passer le déficit public en dessous de 3% d'ici 2029. Malgré, dit Fitch, que 2029, c'est déjà 2 ans plus tard que les 2027 qui avaient été annoncés précédemment. Et donc, quand même, c'est un constat qui est assez sévère vis-à-vis de l'évolution probable des finances publiques françaises, ce qui me fait dire que finalement, vu ce constat, on peut peut-être être encore content qu'on se soit contenté d'une dégradation de la perspective plutôt que d'une dégradation de la note elle-même, déjà.
Des propos recueillis par Justine Fontaine et le ministre de l'économie. Antoine Armand a lui indiqué pour sa part prendre acte de la décision de Fitch tout en ajoutant que l'agence avait souligné la force de l'économie française vaste et diversifiée et l'efficacité des institutions. La situation reste tendue en Martinique malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne. La nuit dernière, les forces de l'ordre ont tenté de contenir des émeutiers qui ont érigé des dizaines de barrages à travers l'île française des Antilles. 12 ont été légèrement blessés. 150 véhicules ont brûlé. 14 locaux commerciaux ont été incendiés. Selon une source préfectorale, 32 interpellations ont été effectuées. La Martinique est en proie depuis septembre à une mobilisation contre la vie chère qui a dégénéré avec des violences urbaines. 2 avocats sont portés disparus au Burkina Faso. Ils ont été enlevés jeudi soir sur l'axe des Dougou-Bobo-Dioulasso dans l'ouest du pays. Selon des sources proches des victimes, cet enlèvement aurait été commis par des terroristes. Les précisions de Frédéric Gara.
C'est sur la route menant de Dédougou vers Bobo-Dioulasso que l'enlèvement a eu lieu. Un groupe armé terroriste a arrêté sur la Nationale 10 le Toyota RAV4 à bord duquel se trouvaient les 2 avocats. Gontran Sommet et Christian Caboret avaient décidé de contourner l'axe National 1 menant de Ouagadougou, d'où ils venaient, vers Bobo-Dioulasso en passant par la route secondaire aux environs de Bondoukoui. Ce détour rallonge le trajet, mais s'explique par les fortes pluies qui ont inondé la Nationale 1. Un contournement malheureux, car c'est en prenant ce chemin que les 2 hommes de loi ont croisé celui de leur ravisseur. C'est une passagère du véhicule qui n'a pas été retenue par les hommes armés qui a donné l'alerte de cet enlèvement. Cette région de l'ouest du Faso, comme d'autres, est réputée peu sûre. Et ce même jeudi, un bus de la société Elitis aurait échappé à une attaque terroriste juste avant le passage des 2 avocats.
Frédéric Gara. Aux États-Unis, plus de 2 millions de foyers restent sans électricité en Floride après le passage de l'ouragan Milton. Au moins 17 personnes ont perdu la vie à travers plusieurs comtés, selon les autorités. Le plus endeuillé est celui de Sainte-Lucie, sur la côte est de la péninsule. Selon le président Joe Biden, qui doit se rendre sur place ce dimanche, le montant des dégâts est estimé à 50 milliards de dollars. Et aux États-Unis, toujours, l'avionneur Boeing annonce une réduction de près de 10% de ses effectifs mondiaux dans les prochains mois. Cela représente à peu près 17 000 emplois. La réduction du personnel va affecter toutes les catégories. L'avionneur américain annonce également une série de mesures touchant son catalogue d'avions pour tenter de surmonter ses difficultés financières. C'est traditionnellement le dernier annoncé hier. Le prix Nobel de la paix a été décerné à l'organisation japonaise Hidankyo. Elle représente les personnes ayant survécu au bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki en 1945. L'Académie a voulu saluer la détermination de ces quelques 100 000 miraculés. Un choix qui a été salué par les Japonais à Tokyo. Le reportage de Bruno Duval.
Vendredi, des grands quotidiens ont imprimé des éditions spéciales. Dans les rues de Tokyo, les gens se sont bousculés pour obtenir un exemplaire de ce quotidien qui restera dans les annales. Et le choix du comité Nobel faisait l'unanimité.
C'est fantastique, absolument fantastique.
C'est un choix merveilleux. Ces gens ont survécu à un enfer. Et depuis, ils se battent pour que cela ne se reproduise pas. J'en ai les larmes aux yeux.
C'est un moment très important, à la fois par rapport au passé tragique du Japon et, je l'espère, pour l'avenir du monde.
Le gouvernement a félicité l'organisation lauréate, mais en réalité, il est dans ses petits souliers. Et doublement. D'abord, le seul pays du monde qui fut dévasté par le feu atomique n'a jamais prétendu signer le traité des Nations Unies interdisant les armes nucléaires. L'archipel s'y refuse, soucieux de ne pas heurter le puissant allié américain. Ensuite, dans son discours, le président du comité Nobel a insisté sur la nécessité absolue de maintenir le tabou nucléaire. Cette déclaration peut être vue comme une gifle assénée au nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba, qui dernièrement a fait voler en éclats ce tabou fondateur en réclamant que des armes atomiques soient entreposées dans les bases militaires américaines situées sur le territoire japonais. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
RFI, il est 5h10 à Paris, 3h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.